source et développement de la créativité, entretien avec Marcus Borja au sujet de sa production Voice of Kyoto. Rapide présentation,
ok. Ok, donc je m'appelle Marcus Borja, je suis brésilien, mais je vis en France depuis un peu plus de 17 ans maintenant. Donc, le gros de mon travail, je le fais en France, même si ces dernières années, j'ai été amené à faire pas mal de projets à l'international, notamment en Grèce, en Italie, et maintenant au Japon. Donc, je suis acteur, metteur en scène, dramaturge, musicien. Je suis, à la base, je suis pianiste, mais du coup, je me suis très naturellement orienté aussi vers le chant, non seulement le chant en tant que chanteur, mais en tant que chef de chant et surtout chef de chœur, parce que j'aime faire dialoguer les arts et les différentes formes d'art, que ce soit le théâtre, la musique, la danse, la performance, la littérature. Moi, j'ai une première formation supérieure en lettres, justement. Mais aussi parce que j'ai un intérêt assez particulier porté sur la choralité, le travail de la choralité, c'est-à-dire un travail j'entends la choralité comme une pluralité de voix. Pas forcément pour dire la même chose, ça peut être des voix, ça doit même être des voix discordantes, dissonantes, disharmonieuses et multilingues de préférence. Et quand je dis voix, c'est bien sûr la voix humaine qui m'intéresse beaucoup, mais cette polyphonie peut aussi être faite d'autres sons, de langues, de lumières, de gestes, de textes, de mots, de plein de choses, et de créer donc une espèce de grande trame, de grand network théâtral et performatif. Donc ma recherche, enfin, le travail que je développe ici au Japon, à Kyoto, je suis donc artiste en résidence à la Villa Kojoyama en ce moment, est porté sur ça, sur la création, le développement de performances dans l'espace public avec les outils de la choralité, de la vocalité et du plurilinguisme. Voilà. Y compris par rapport à toutes les langues qui sont parlées au Japon. Et on sait maintenant très bien qu'il n'y a pas que le japonais. Et je ne parle pas que des langues des expatriés qui vivent au Japon, mais des langues locales, mais qui ne sont pas le japonais, comme la langue d'Okinawa ou la langue Ainu. Voilà. Donc c'est, en gros, c'est ça.
Donc on va passer aux questions. Donc on reviendra aussi par rapport à cette pluralité et aux dissonances des voix. Mm-hmm. Donc la première question... Y a-t-il un instant où tu as eu la révélation qu'il te fallait travailler avec les sons en particulier ?
Ouais. C'est une question un peu piège. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une révélation quelconque. Et alors, la question du son, bien sûr, c'est une donnée importante. Le travail que je fais, en tout cas en ce moment, et que j'aime faire en ce moment. Mais c'est pas une exclusivité déjà. Et d'ailleurs, c'est bien, d'ailleurs c'est marrant, mais c'est en même temps bien que tu parles du son, et pas genre de la musique, parce que c'est vrai que du coup, c'est. Évidemment, la musique, elle est complètement présente tout le temps là-dedans, mais si on considère que la musique, dans le sens commun qu'on a sur la musique, c'est les notes musicales, du coup ce serait réducteur et le son serait un terme plus démocratique. Mais si on considère que ce qu'on fait, que la musique, c'est aussi la musique des langues, c'est aussi l'harmonie que produisent les différents sons dans l'espace, comme ce qu'on est en train d'écouter là maintenant, il y a ma voix, il y a cette musique d'ambiance, il y a les pas des gens, il y a les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Est-ce que ça peut être justement une forme de musique ? Et moi, j'aime à penser que la musique, c'est ça, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Ça, c'est peut-être quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, parce que je fais de la musique depuis très longtemps, et aussi peut-être parce que j'ai des oreilles bien plus performantes que mes yeux, qui sont fastueuses, j'ai trois paires de lunettes par exemple. Donc j'ai plein de petit souci oculaire depuis que je suis tout petit. Je porte des lunettes depuis que j'ai un an. Donc, c'est-à-dire que la compréhension, enfin la cognition du monde, pour moi, passe plus peut-être par les oreilles que par les yeux. Et forcément par la mémoire, parce que du coup, si du coup tu as du mal à lire un plan, à te repérer sur des panneaux, et bah du coup tu apprends les déplacements par cœur. Donc ça et peut-être ça expliquerait, j'ai jamais fait la psychanalyse de ça, hein, mais peut-être ça expliquerait le fait que du coup on est tous dans le noir, ce qui fait qu'on est obligé d'être de travailler sa mémoire parce qu'on pourra pas lire quoi que ce soit. On est dans le noir, donc il y a un déficit visuel, et en même temps il y a une confiance extrême qu'on doit faire à l'écoute et au son les uns et les autres. Donc je pense pas qu'il y ait une révélation, mais un processus qui commence depuis que je me comprends en tant qu'être humain, vivant, percevant le monde, et qui se développe et qui se transforme au cours de ma vie, avec les rencontres que je fais, etc. Donc c'est un organisme vivant. Il n'y a pas un avant et un après, il n'y a pas une révélation, il y a une évolution, peut-être une mouvance constante. Parce qu'évolution, on pense à un truc qui est à un stade X et qui, au fur et à mesure, doit arriver à un stade X plus, 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 plus. Et je ne vois pas les choses comme une ligne continue, mais comme un réseau, une spirale, parfois même un cercle. Donc je trouve ça bien de faire des pas en arrière parfois. Donc c'est une rencontre. Voilà. C'est un réseau de rencontres.
As-tu le sentiment de créer pour répondre à un manque ou une absence, ou pour exprimer une présence en toi, intérieure?
Intéressante comme question. Alors, je crois qu'on... Quand on se propose justement d'être, entre guillemets, créateur, j'ai l'impression que tout le monde est un peu créateur de quelque chose. Enfin, c'est pas une exclusivité des artistes, mais je crois qu'il y a toujours une volonté, une nécessité peut-être, mais en tout cas une envie d'aller voir du côté d'au-delà de ses propres limites, des limites de son corps et de son... et de son monde palpable et visible immédiat. Donc en ce sens-là, peut-être qu'il y aurait un manque de... Mais le problème avec le manque, c'est que du coup, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous fait défaut. Et je sais pas trop si ce serait ça. En tout cas, si c'est ça, c'est pas douloureux. Parce que je trouve que la création... Enfin, si, elle est douloureuse dans la mesure où tu te bats contre plein de choses, mais c'est une pulsion de vie. Et dans mon cas, j'aime que ça soit une pulsion de joie. Le jour où ça cessera d'être une pulsion de joie, je ne ferai plus ça. Avec tout le stress qu'il y a, c'est quand même une pulsion de joie. Mais donc, j'ai perdu mon fil. Donc, plutôt que d'un manque, je trouve que c'est une curiosité. Enfin, c'est une envie d'aller au-delà, de voir de l'autre côté de la porte, de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut construire au-delà de ça, et est-ce qu'il y a d'autres réalités possibles derrière la réalité immédiate. Donc peut-être que c'est un manque de contradiction, de diversité, de pluralité, je ne sais pas. Une envie de voir si on peut aller... Qu'est-ce qu'on peut faire de cette table autre que de s'en servir en tant que table ? Peut-être ça, c'est une des fonctions, des missions, des pulsions de l'art. C'est-à-dire, c'est de déterritorialiser les choses, de les réinventer dans d'autres contextes, autres que leur contexte d'utilisation immédiate et consommable. Donc, et moi, j'aime ça, en fait, ça m'intéresse. J'aime voyager, j'aime voir, apprendre des langues différentes. Je trouve toujours très drôle, c'est pour ça que je disais qu'il fallait que c'est bien de faire des pas en arrière. C'est toujours bien de parfois s'arrêter et regarder un peu ce que tu as fait jusque là. Il fallait de l'avant, oui, mais d'accord, mais c'est bien d'aller en arrière de temps en temps, de faire des pas en arrière, sinon il n'y aurait pas de danse. C'est bien de faire des pas en arrière de temps en temps, et du coup de voir ce qui par exemple le français, c'est pas ma langue maternelle, Mais aujourd'hui, je m'exprime très aisément, un peu comme si ça l'était. Et du coup, je suis émerveillé, non pas de moi-même, de mes capacités ou quoi, mais de ce parcours, de cette capacité qu'on a à se transformer si on se le permet. Et je trouve que l'art est un terrain de jeu très favorable pour se permettre de se transformer, de se réinventer. Ça peut être l'apprentissage d'une nouvelle langue, ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être un défi que tu te mets. Et après, ce qui est intéressant avec l'art, c'est que ça rassemble plus de monde, parce que l'idée, c'est que ça soit quelque chose qui, bien sûr, te meut, te fait avancer, te manque peut-être, mais qui doit se concrétiser en une forme qui puisse être partageable, qui puisse être reconnaissable, ou qui puisse être, comment on peut dire ça, dont d'autres puissent jouir. Et donc, tu vois, comme la musique, ok, c'est, peut-être j'avais un manque de quelque chose, donc j'ai composé ce morceau, mais d'autres peuvent l'entendre et peuvent le réinterpréter, et peuvent le reterritorialiser encore et encore et encore. C'est différent, par exemple, je sais pas, d'une psychanalyse, où du coup, c'est peut-être un formidable travail, mais qui reste sur mon être à moi. L'apprentissage d'une langue, ça va peut-être un petit peu plus au-delà, parce que du coup, la seule façon de vérifier que tu l'as apprise, cette langue, c'est de communiquer avec d'autres. Mais l'art, du coup, c'est très bien, parce que même si du coup tu n'es plus là, à un moment donné, l'œuvre que tu as créée peut continuer de communiquer. Et d'être réinventée, changer de signification encore au fur et à mesure qu'elle est mise en contact avec d'autres gens, dans d'autres temps, dans d'autres époques, dans d'autres pays. Et ça, c'est chouette.
Donc créer pour les autres plutôt que pour soi-même ?
C'est les deux, quand
les
même.
Deux.
Ouais, je trouve. Parce que... Enfin, je crée pour les autres, c'est pas vrai, en fait. On crée toujours pour soi-même aussi. Enfin, je veux dire, évidemment qu'il y a de l'ego là-dedans. Ben, sinon, il n'y aurait pas... Ben, sinon, il n'y aurait pas l'œuvre, quoi. Ça émane, bien sûr, d'une pulsion, d'un désir, peut-être d'un manque, peut-être. Mais ça tend un pont vers l'autre. Et pour qu'il y ait un pont, il faut qu'il y ait quand même deux rives. Peut-être qu'une des rives, c'est moi, et l'autre rive, c'est l'autre. Mais du coup, s'il n'y a pas une des deux rives, le pont s'écroule. Donc je pense que oui, c'est un équilibre entre soi-même et l'autre.
Quelles sont tes inspirations, tes influences ? Quels faits se sont penchés sur ton verso ?
Alors, quels faits se sont penchés sur mon verso ? Je ne sais pas. Je ne me souviens plus, j'étais trop petit. Mais les influences... Alors, elle est dure, cette question. Elle est très dure parce qu'en fait, comme je suis un peu trop curieux, peut-être un peu... Justement, j'allais dire peut-être que je suis très curieux, mais justement, peut-être un peu trop. Elle se mélange un peu dans... Parce qu'il y a des influences un peu de toutes parts, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma ou dans l'architecture ou dans la musique ou dans le théâtre ou dans la peinture ou dans... Enfin, et je parle que dans l'art, hein, parce que du coup, ça peut venir aussi de choses que tu perçois dans la nature. Mais... Ouais, je pense que chaque nouveau projet convoque des émotions, enfin des inspirations différentes, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des tiroirs qui s'ouvrent, un peu comme s'il y avait une espèce d'archiviste dans mon cerveau, qui du coup fait « Ah tiens, pour ce projet-là, on va ouvrir ce tiroir-là. Ah !» Et puis du coup, il y a une... C'est vrai que ça me fait penser. Enfin, c'est toujours c'est des vases communicants, quoi, qui n'arrêtent pas de communiquer, justement. Mais il y a peut-être certaines choses qui... Mais voilà, je vais peut-être en piocher quelques-unes. Et c'est peut-être pas par hasard que je les pioche maintenant. Peut-être que justement, elles font partie des influences majeures, mais elles ne sauraient en aucun cas être les seules. Et tout est en transition un peu tout le temps. Et là, je suis en train d'en recréer plein d'autres du fait d'être au Japon en ce moment, tu vois. C'est une richesse incroyable. On va en parler après. Mais par exemple, le théâtre antique occidental, le théâtre grec, quand je dis le théâtre grec, c'est juste pour trouver une synthèse entre plein de choses qui viennent de la Grèce antique, qui m'ont beaucoup construit et qui ne sont pas que dans le théâtre, mais le théâtre les regroupe assez majoritairement, c'est-à-dire l'épopée, la mythologie, le théâtre, le spectacle, le cœur. Enfin, c'est ça des choses qui me... Et c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses qui sont venues après, quel que soit le domaine artistique auquel elles appartiennent, mais qui viennent de cet intérêt primordial par cette culture très vaste et très plurielle de mythes et d'histoires et de trucs. Là, je suis en train d'apprendre un tas de choses aussi sur les mythologies japonaises, et il y en a plein, et c'est formidable aussi. Mais donc ça, il y a des poètes, il y a des figures de poètes qui m'ont toujours inspiré. Il y a un poète portugais qui s'appelle Fernando Pessoa, justement. Ça, tu en as...
On va en parler d'ailleurs, après.
Ah, c'est vrai, ouais. Ok, ben voilà, parce que j'ai créé ma performance à la gare de Kyoto le 1er octobre pour l'année blanche, c'était inspiré d'un poème de Pessoa qui s'appelle Notre-Dame du silence. J'en disais un, celui sur les tripes. Et est-ce que j'ai commandé de l'amour? Pourquoi est-ce qu'on m'a servi des tripes froides? Ça, c'est Fernando Pessoa aussi. Parce que justement, c'est un mec pluriel. C'est un gars qui avait plusieurs êtres et qui écrivait sous différents pseudonymes, entre guillemets, parce qu'il ne les appelait pas des pseudonymes, parce que ce n'était pas juste des faux noms. Il les appelait des hétéronymes, parce que c'était vraiment des personnes différentes, des personnes qui avaient des histoires de vie différentes. Il a fait le thème astral de ces différents hétéronymes qui sont différents, ils sont nés à des dates différentes, ils ont interagi entre eux, ils se sont critiqués positivement comme négativement, ils écrivent très différemment, donc c'est d'autres êtres en fait, c'est comme si quelqu'un créait des personnages mais pour que ces personnages interagissent avec lui comme des amis imaginaires, comme d'aller très loin dans la fiction de l'ami imaginaire. Et ça pour moi c'est déjà très intéressant parce que c'est pluriel, c'est déjà choral, c'est un homme choral. Et c'est incroyable, du coup. Et c'est inépuisable, en fait, ce qu'il écrit. Il y a plein d'autres. Enfin, c'est dommage, parce que je vais pas me rappeler là comme ça, tu vois. J'ai forcément oublié un tas de choses, mais et là, je n'ai parlé que d'un truc de théâtre et un truc de poésie, mais il y a mille trucs dans la littérature. Enfin, je sais pas, à des niveaux différents, et parfois même imperceptiblement, Je me rends compte que je suis très influencé par Proust, par Marcel Proust. Parce que pour moi, c'est aussi une œuvre chorale, plurielle, extrêmement complexe. Et j'adore ça, en fait, justement. Tu vois, quand tu as une phrase qui fait 40 lignes, et tu dois suivre sans perdre le fil, moi, je trouve ça génial, je trouve ça théâtral. Il y a un truc, t'engages ton corps et ton esprit dans cet enchevêtrement syntaxique. Tu vois, c'est super aussi. Et puis plein de choses, enfin, la musique brésilienne, bien sûr. Enfin, il y a plein de choses qui se... Et peut-être un amour des langues, enfin, voilà, en tant que musique. Mais il y en a plein d'autres, voilà.
Du coup, tu as travaillé autour de Fernando Pessoa. Bon, pourquoi Pessoa te fascine-t-il?
Du coup, je t'ai déjà répondu un peu. Voilà. Mais voilà, il y a des rencontres littéraires comme ça qui te marquent. Enfin, je suppose que t'en as les tiennes et on ne va pas arrêter de les voir. Tu vois. Parfois, il y a des... C'est pas que la rencontre avec l'auteur ou l'autrice, donc avec l'œuvre en question, mais c'est aussi le temps de la rencontre. Je pense qu'il y a des livres, il y a des rencontres littéraires qui ne peuvent se faire qu'à une étape spécifique de notre vie. On ne sait pas et on ne saura pas, mais ça arrive, tu vois. Je me souviens la première fois que j'ai lu Madame Bovary, j'étais à l'Alliance française, donc à Brasilia. Je faisais le cursus supérieur, un peu de littérature française, tout ça. Mais ça m'est passé au-dessus de la tête, en fait. Du coup, enfin, je sais pas. Et c'est pas parce que j'ai pas aimé, mais parce que voilà, c'était un cadre aussi. Voilà, il y aura un examen dessus. Et voilà, et j'étais peut-être pas aussi à l'aise avec la langue française que je le suis maintenant. Donc voilà, je me souviens de quelques phrases, de quelques trucs qui m'ont marqué. Je me souviens d'une phrase, celle-là, je l'ai jamais oubliée. Vers la fin, quand Madame Bovary est en train de mourir, et qu'à un moment donné, elle dit « Ah, c'est atroce, mon Dieu !» Et cette phrase, ça m'est resté, tu vois. C'est la seule chose que j'arrivais à me rappeler de Madame Bovary, c'était « Ah, c'est atroce, mon Dieu !» Je ne sais pas si c'est parce que ce bouquin était atroce à lire, mais c'était pas atroce, mais c'était pas... Et genre 10 ans après, quand j'étais en France déjà. Non, pas 10 ans, peut-être un peu moins. Je sais plus. Moins, sans doute. Je l'ai relu. Mais genre, volontairement, je vais dire ça. Je l'ai acheté, je l'ai lu. Je l'ai lu, mais en 3 jours, comme ça. Je dévorais le truc. Et c'était génial. J'étais, mais qu'est-ce que c'est génial, ce bouquin. Donc à la fin, j'étais un peu... Tu vois, quand tu fermes le bouquin, et tu respires un peu. Et là, du coup, je me dis, ah oui, d'accord, parce que... enfin. Et du coup, tu comprends plein de mécanismes aussi du génie, de l'écriture et de la façon d'écrire et des choses qui t'ont... que tu n'étais peut-être pas prêt, pas parce que tu étais immature ou quoi, mais c'est parce que c'était pas le moment, quoi. Et du coup, tu... Et là, je me souviens de... Madame Bovary, elle met plusieurs pages à mourir, en fait. Mais Charles Bovary, son mari, il ne met qu'un seul paragraphe à mourir, quoi, à la toute fin. Et j'ai trouvé ça choquant. Et atroce, justement. Le fait que, du coup, enfin, ce mec-là, c'était... Enfin, en fait, le livre commence avec lui, se termine avec lui, mais d'une façon tout aussi insignifiante au début qu'à la fin, tu vois. C'est un pauvre mec, quoi. C'est un pauvre type qui épouse, enfin, qui n'a pas de chance dans la vie. Qui aurait voulu juste une vie simple, un peu bête comme lui, qui est un peu bête, mais qui est sympa, mais qui est bête. Et en fait, il vit bêtement, il meurt bêtement, à la fin, très bêtement. Et là, je me suis dit, putain, mais il fallait... Qu'est-ce qu'il est cruel, cet auteur, comment il le malmène, ce personnage. Enfin, sa mort, elle est juste... C'est un paragraphe, c'est un truc, bon... Enfin, tout ça pour dire que... Enfin, il y a un moment où j'ai rencontré Fernando Pessoa, parce qu'on en entend parler depuis qu'on est petit, parce que bon, c'est un poète portugais, donc forcément, on entend parler au Brésil. J'ai dû lire des trucs, ou étudier des trucs à l'école, enfin au lycée surtout. Mais c'est quand j'étais à la fac que j'ai commencé à vraiment comprendre, enfin à ma manière, en tout cas chacun comprend à sa manière, mais l'œuvre. Et j'ai créé un spectacle, enfin j'ai créé avec une amie. Elle mettait en scène et moi je jouais. Et on avait un dialogue dramaturgique très fluide. Et on a monté un monologue, c'était moi qui jouais, sur les différents hétéronymes de Fernando Pessoa. Et c'était incroyable parce que du coup j'étais plongé dans le truc, tu vois, donc je jouais 4 personnages. Et là du coup j'ai eu l'idée physiquement et clairement que, en fait oui, je ne pourrais plus jamais parler de toutes ces personnes comme d'un seul homme. Je ne peux parler de ces hétéronymes de Pessoa que comme plusieurs personnes différentes. Et là, du coup, je me disais, ah oui, il y a du génie là-dedans. Ça veut dire que si d'un côté, on peut... oui, allez-y, partez. Si d'un côté, on ne peut, enfin, si on peut croire que c'est un peu fou de dire que, non, mais attends, arrête de dire que c'est plusieurs personnes, parce que bon, faut pas oublier non plus que c'est juste un mec qui les a écrits, hein, donc il y a quand même une schizophrénie. Mais après l'avoir lu et l'avoir fréquenté, je me dis qu'en fait, ce qui est schizophrène et ce qui est complètement à côté de la plaque, c'est de persister à affirmer que toutes ces personnes n'en font qu'une. En fait, ce sont plusieurs personnes, vraiment. Et là, du coup, je me suis dit, ça veut dire, c'est une leçon que j'ai apprise. Je me suis dit, en fait, on est. Et il a juste fait un pas de plus que la plupart des gens, mais on est pluriel, en fait. Et on a plusieurs facettes, plusieurs âmes, plusieurs façons de voir le monde. Il les a juste fait jaillir de lui, sous forme de d'écriture, et interagir entre eux. Tu vois, donc... Donc c'est théâtral, c'est-à-dire que c'est à la fois choral, dramatique, dramaturgique, et en plus les textes sont magnifiques. Quoi.
Quelles sont les étapes les plus importantes de ton itinéraire artistique?
Oui, sans doute quelques-unes. Enfin, encore une fois, voilà, je saurais pas tout. Dire là maintenant, forcément il y a des choses qui vont m'échapper, mais un truc par exemple marquant, c'était ma toute première mise en scène, j'avais 20 ans, et c'était déjà un truc mégalomane, grandiloquent et pluriel, et en plus c'était à partir des mythes grecs, anciens, antiques, ça s'appelait 7 mythes d'amour, 7, le chiffre 7, 7 mythes d'amour, donc 7 histoires quoi, mythologiques, liées à la question de la relation amoureuse, qu'avait, je sais pas, Eros et Psyché, Pyramide Thisbé, Orphée, Eurydice, je me souviens pas de tout là maintenant, Écho et Narcisse, enfin voilà, plein de... Et c'était un truc... Et j'ai tout fait. Enfin, on était nombreux, mais je veux dire, j'ai voulu un peu tout signer, quoi. C'est-à-dire les costumes, le décor, la direction musicale, l'adaptation, l'écriture du texte. Et il y avait 25 personnes sur scène. Plus un quatuor de flûte baroque et une joueuse de viol de gambe. Et du coup, je me suis dit, mais c'est... Et là, je me suis dit, OK, donc il y a un truc. Enfin, le mec, c'est-à-dire moi... Et c'est pas un truc de difficulté, de facilité. Ah, tu n'as pas choisi la facilité, hein. Tu aurais pu monter un truc, un monologue, un truc avec trois acteurs. Mais peut-être, et ça n'a rien à voir avec la difficulté, mais la charge de boulot. Mais pour moi, c'était peut-être plus facile de penser la chose comme ça. Donc peut-être c'était un premier symptôme qui pour moi n'était pas du tout clair intellectuellement à l'époque. Mais que peut-être que ce qui m'intéressait, c'était ça, quoi. C'était cette pluralité. J'ai oublié une influence fondamentale, justement. J'adore l'opéra, en fait. Et je l'ai découvert quand j'avais, 16 ans, un truc comme ça. Et j'ai adoré ça. Parce que je me suis dit, ah oui, donc c'est une forme d'art totale. Il y a plein de choses. C'est super. Et j'ai très vite adhéré à la convention de l'opéra, tu vois, où tout le monde chante plutôt que de parler. Mais bon, ça, c'est la comédie musicale aussi, tu vois. On chante plutôt que de parler et puis tout le monde est d'accord. C'est comme la danse classique, quoi. Plutôt que de parler, ils dansent. Ça, je suis moins sensible. La danse contemporaine, j'adore. Mais la danse classique, un peu moins. Je trouve que ça ne s'est pas renouvelé, alors que l'opéra, si. Enfin, dans les mises en scène, dans les enjeux. Et donc voilà, je me suis dit peut-être que ce qui m'intéressera, c'est de mettre en scène des opéras. Après, et ça m'intéresse toujours, mais il y a juste pas un problème, mais peut-être un truc qui manque à l'opéra, c'est justement cette question de plurilinguisme et de parce qu'il y a quand même une histoire qui est déjà là. Et c'est en général, c'est en une seule langue, et c'est très bien, hein, mais en tout cas, il y a un truc opératique dans ce sens de foule sur scène et de différentes formes d'expression artistique. Donc ça, cette première expérience, donc j'avais 20 ans, donc après. Sans doute, enfin, mon départ en France, ça a changé beaucoup de choses. Enfin, c'était pas un dépaysement aussi fort que celui que je suis en train de vivre maintenant au Japon, parce que quand je suis arrivé en France, je parlais déjà français, j'avais fait du français au Brésil à la fac notamment, et je reste occidental. Enfin, j'ai une gueule d'occidental. Les gens pensent que je suis français en France, alors que personne ne pourrait jamais penser que je suis japonais au Japon. Et en plus, je me suis mis à étudier le japonais, mais je suis très loin de parler japonais, couramment. De toute façon, quoi que je fasse, je ne pourrais jamais prétendre être japonais. Et c'est vraiment très... J'ai eu vraiment les chocs culturels que j'espérais avoir quand je suis venu ici. Mais quand je suis allé en France, quand même, il y a plein de choses qui ont changé. Je sais qu'aujourd'hui, je suis une autre personne et que la France fait partie de mes gènes maintenant. Et pour toujours, j'ai l'impression. Tu vois, c'est des choses qui te transforment. Je suis arrivé en France, j'avais 24 ans. Ok, j'étais déjà un adulte, j'avais déjà des diplômes, enfin, mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé des choses en France plutôt que d'avoir découvert des choses. J'ai l'impression d'avoir retrouvé des trucs et j'ai fait un tas de trucs en France. J'ai fait l'histoire de l'art, du théâtre, de trois masters, deux doctorats, enfin voilà. Enfin donc ça m'a beaucoup apporté, quoi. Et Paris, c'est une ville qui est faite pour les boulimiques, justement. Donc j'ai trouvé mon compte, quoi. Tu vois, enfin, tu peux mourir de tout à Paris sauf d'ennui. Il y a mille trucs à faire, tout le temps. Et à Paris, je vais au spectacle, que ce soit théâtre, opéra, concert, performance, pratiquement tous les soirs. C'est incroyable, du coup, une ville où tu peux faire ça, tu vois. Donc oui, un autre moment, c'est justement... c'est une période que je vais inscrire un peu entre 2012 et 2015, parce qu'en 2012 je suis allé au Brésil pendant 10 mois, parce que ma première thèse de doctorat, enfin mon premier doctorat, je l'ai fait en co-tutelle avec l'université de São Paulo parce que je voulais renouer. J'ai jamais perdu mes liens avec le Brésil. J'y vais tous les ans, ma famille est toute là-bas. Mais je voulais faire quelque chose en lien avec le Brésil. Ça me manquait. Donc je me suis dit, je vais faire un doctorat en co-tutelle. Comme ça, je peux avoir une présence plus longue au Brésil plutôt que juste les vacances. Et je suis allé à l'université de São Paulo et on a fait un projet autour de la choralité. Ça m'intéressait parce que j'étais déjà... quand j'étais à l'école du Louvre, j'ai fondé le chœur de l'école du Louvre. Donc je dirigeais le chœur... Et j'ai toujours chanté dans des chœurs, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Mais là, du coup, c'était vraiment un projet sur la choralité. Donc au-delà juste du chœur comme un ensemble de gens qui chantent, mais quelque chose de plus complexe. Enfin, la choralité, le terme choralité, il accueille davantage la diversité et la discordance plutôt que le terme chœur. Tu penses chœur, tu penses plein de gens qui font la même chose. La choralité, en quelque sorte, c'est un peu l'inverse du chœur. C'est-à-dire, elle est le revers du chœur plutôt. C'est-à-dire... Certes, il y a un groupe, il y a une communauté d'intérêts, mais où les voix ne sont pas forcément convergentes, elles sont divergentes. Il y a d'ailleurs, parenthèse, un article, si jamais ça t'intéresse, qui m'a beaucoup inspiré dans mes élucubrations sur la choralité, qui s'appelle Choralité diffractée, au pluriel, choralité diffractée, de points, la communauté en creux. C'est d'un gars qui s'appelle Christophe Triot, qui est chercheur et professeur universitaire à Paris. Il a écrit ça en 2003 dans une revue qui s'appelle Alternative Théâtrale. Ce numéro-là était consacré à la choralité, justement. Et il écrit l'article d'ouverture. C'est lui qui a dirigé cette publication, d'ailleurs. Ça m'a beaucoup inspiré. Et donc là-bas, j'ai créé j'avais une espèce de laboratoire. J'ai dirigé un laboratoire de recherche avec des étudiants en licence. On se voyait tous les jeudis pendant 4 mois et on a créé un spectacle justement choral immersif dans le noir et qui était pour moi, qui était l'embryon de ce qu'allait devenir théâtre, le spectacle dont je vous ai parlé et dont une des résonances a été Voices of Kyoto justement. Donc je pense que ce moment-là, et qui a été créé en 2015, donc théâtre, ça a été créé, c'est pour ça que je mets 2012-2015, parce que ça a été créé en 2015 dans le cadre de mon deuxième doctorat sacre. Et ça, peut-être, c'est une étape importante aussi de ma carrière, parce que pendant ces 3 années, j'avais le temps, l'argent, les moyens de faire une recherche approfondie sur la choralité. Et peut-être qu'il y a beaucoup d'outils de mon travail qui étaient peut-être un peu épars avant et que j'ai pu mieux comprendre, rassembler et développer quelque chose qui est un peu comme une méthode. Même si je me méfie un peu du mot méthode de travail, je pense que chaque projet trouve sa méthode, mais une espèce de fil conducteur et que j'ai partagé avec vous, par exemple, quand on a créé la performance. Et je pense que c'est beaucoup grâce à ces 3 années de recherche pendant ce doctorat sacre. Sacre, c'est un acronyme pour science, art, création, recherche. Et je suis très content parce que j'avais 3 choses qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire... la création artistique, la recherche et la pédagogie. Et pour moi, elles sont indissociables. Voilà. Et après, maintenant, bien sûr, ma venue au Japon. Ça. Ouais. J'ai pas encore le recul pour en parler parce que je suis en train de vivre, tu vois. Mais je sais que en 4 mois et demi, j'ai fait des rencontres incroyables et des choses incroyables. Donc, je suis en train d'être bousculé aussi dans mes façons de concevoir le travail aussi, tu vois. Et c'est super.
Pourquoi avoir choisi la France en étant brésilien d'origine?
Ouais. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir toujours été francophile, mais... Enfin, toujours, ça veut dire depuis tout petit. Mais, si tu veux, Paris, je vais dire par défaut, mais c'est peut-être pas la bonne expression, mais est une ville qui est dans l'imaginaire un peu de tout le monde, tu vois. Comme Rio aussi, d'ailleurs, c'est marrant. C'est aussi dans l'imaginaire. Rio, ça fait rêver. Paris, ça fait rêver, tu vois. Et c'est vrai. Et quand j'avais 14 ans, j'allais avoir 15 ans,
mon école, à mon collège, j'étais à la fin du collège. On ne dit pas vraiment école, collège et lycée au Brésil, mais bon, bref, ce serait l'équivalent de la troisième. A proposé un mois de séjour linguistique en Irlande pour l'anglais. 3 semaines, je pense. On allait être chez l'habitant, cours d'anglais tous les jours, tous les matins, à Dublin, super. Et je me disais, putain, je vais faire ça. Donc déjà, j'avais envie de voyager, j'étais déjà très curieux. Et j'étais jamais parti tout seul, comme ça, tu vois. Je me sentais très grand. Et j'ai 14 ans, je vais partir tout seul en Irlande avec plein de gens de mon âge, ça va être génial. Et à la fin, il y avait une espèce de bonus, enfin bonus. C'était compris dans le truc, mais il y avait un prix que tu payais, quoi. Mais il y avait 4 ou 5 jours à Paris. Genre cadeau. Bonus, quoi, on va dire. À la fin du truc qu'on est en Irlande. Et là, je me dis, ah, Paris, putain, en plus, on va passer 5 jours à Paris, c'est génial. Alors, et là, c'était quoi? C'était février ou mars, février, je crois, que la prof d'anglais nous a donné le flyer et tout. Et le voyage était en juillet, donc c'est-à-dire 4 mois plus tard. Et je me suis dit, ok, je vais à Paris, donc il faut que j'apprenne cette langue. Genre le mec très... Enfin... Mégalo, quoi, je veux dire, tu vas passer 4 jours à Paris et tu... Il ne faut pas que tu apprennes cette... Enfin, il ne faut pas forcément que tu apprennes cette langue, mais du coup, je sais pas, c'était un prétexte pour quelque chose qui inconsciemment me disait, il faut que j'apprenne cette langue. Donc j'ai commencé à prendre des cours de français avec une amie de ma grand-mère. 2 fois par semaine après l'école, l'école était le matin, j'allais déjeuner chez ma grand-mère et j'allais chez elle, chez son amie, qui était prof d'anglais, de français et de piano. Et donc elle me donnait des cours de français, je me souviens encore de ma toute première leçon de français, mes tout premiers mots. Je trouve que c'est une chance parce que tu vois, aujourd'hui c'est une langue qui est devenue un peu la mienne, je rêve en français, je fais tout en français, mais j'ai la chance donc de me souvenir de l'apprentissage de mes premiers mots, de mes premiers mots. Alors que normalement, on ne se souvient pas vraiment des premiers mots qu'on a appris dans sa langue, tu vois. Non. Moi, je ne me souviens pas des premiers mots que j'ai appris en portugais. Comment est-ce que j'ai commencé à parler? Mais je me souviens en français. Et c'est très chouette.
C'était quoi, du coup?
Alors, en fait, la première leçon, elle m'a emmenée dans son jardin. Elle avait un petit jardin devant la maison. Et elle disait des choses, des phrases très simples, mais un peu aussi pour des mots un peu, tu vois, les couleurs. Elle disait... ma maison, et elle montrait sa maison, ma maison est rose. Parce qu'elle était un peu saumon, un peu rose. Ma maison est rose. Maison. Et là, du coup, j'entends le mot maison, je me dis, ah oui, d'accord, donc maison, ça veut dire maison. Parce qu'en fait, il y a plein d'enseignes qui s'appellent maison machin, maison Dior, maison Cartier. Donc, si tu veux, j'avais déjà vu le mot maison partout. Mais je ne savais pas que maison voulait dire maison. Et là, je me souviens de mon déclic, ah, donc ça veut dire maison. Maison, c'est ça. C'est là. Y est, tu vois, en japonais. Bref. Et après, et la rose est rouge. Donc, tu vois, elle montrait la rose est rouge. Et elle dit, ça, c'est mon jardin privé. La place Saint-Spen, qui est une place publique à Rio, c'est un jardin public. Tu vois, donc, elle te faisait des parallèles comme ça. Je me souviens très bien de ça, encore. C'était en 95. Tu n'étais pas née. et là, je ne sais pas, peut-être qu'une petite histoire d'amour a commencé à naître avec... Cette langue. Et je suis parti en France pour les 4 jours à Paris. Et je me la pétais, mais c'est grave avec moi, avec mes quelques mots de français, tu vois. Mais vraiment. Et donc je posais des questions à la guide du Louvre, tu vois. Et du coup, les autres. Alors, les réactions étaient mitigées. Il y avait ceux qui disaient, mais putain, qu'est-ce qu'il se la pète, ce mec? Il se prend pour qui? Et d'autres qui trouvaient ça super, qui me demandaient de l'aide pour des trucs en français. Et j'étais très fier et très de pouvoir les aider, mais bien sûr, je vais vous aider. Alors que, genre, j'avais fait, je sais pas, 3 mois de français avec elle 2 fois par semaine, tu vois. J'avais tout à apprendre, mais quand même. Et c'est. Et évidemment, quand je suis rentré du séjour, je me suis inscrit à l'Alliance française. J'ai continué sérieusement le truc jusqu'à l'université où j'ai fait un cursus de lettres portugais et français. Ah, donc là, et là, pour le coup, il y avait la langue, la littérature, la traduction, l'histoire, tout ça. Et aujourd'hui, je suis prof moi-même à l'université en France, donc je corrige des copies en français, j'écris en français, j'ai écrit mes 2 thèses en français, donc du coup... Et parfois, c'est chouette de faire un peu de se souvenir un peu de ma maison est rose d'un côté et d'une thèse de 750 pages de l'autre côté. Voilà, ouais. C'est... Ouais. Donc peut-être pour ça, et une fois que je suis arrivé, comme je t'ai dit, et ça s'explique pas vraiment, mais j'ai l'impression d'avoir reconnu et rencontré et retrouvé beaucoup de choses. On arrive en France. C'est une culture très riche et très curieuse des autres cultures aussi. Même si parfois, avec peut-être un peu trop de jugement, il y a un petit défaut chez une bonne partie des Français, c'est de penser que leur culture est la plus aboutie et donc il y a un peu donc leur regard sur les autres cultures, plus curieux qu'ils soient, est toujours un peu à l'aune de leur fierté d'être français. Ouais. Mais bon, c'est pas grave.
Quelle richesse résulte de cette hybridation culturelle ?
Je trouve que je pense que déjà, bon, une partie de la réponse est dans la question. Et bah, l'hybridation culturelle. Et ça ne, c'est une richesse. C'est une richesse. Mais aussi, je trouve que c'est comment je peux dire ça? C'est un entraînement, c'est un exercice, ça t'apprend à être plus souple, empathiquement et culturellement même. C'est-à-dire que je trouve qu'on est tous un peu traducteurs de soi-même, surtout quand tu es créateur, que tu as la place un peu de celui qui mène, que ça soit dans l'enseignement ou dans la création à la mise en scène ou dans la direction musicale, tu dois te faire comprendre par l'autre. Et ce n'est pas un problème de l'autre s'il ne comprend pas. C'est d'abord ton problème à toi. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont cette flemme de l'autre et qui pensent que si l'autre n'a pas compris, c'est que il est stupide ou que il n'est pas aussi évolué. Alors que c'est pas du tout, c'est pas ça en fait. Et quand tu es t'apprends un peu à te traduire toi-même, enfin, ça veut dire que tes horizons sont ouverts, plus souple, plus fluide et plus empathique va être ton interaction avec l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est chaque autre, parce qu'avec chaque personne, tu parles une langue différente. Et ça ne veut pas dire qu'on est volubile, qu'on est une personne instable, inconstante et qu'on est des girouettes, mais pas du tout. Ça veut dire que de toute façon, chaque interaction est une interaction. Si tu fais, enfin, pour donner un exemple musical très bête, mais si tu prends, si tu joues un intervalle, un do et un ré, et ben ça fait un son. Si tu joues un do et un mi bémol, ça fait un autre son. Si tu joues un do et un sol, ça fait un autre son. Et le do est toujours là. L'autre note change, mais du coup, le fait que l'autre note change, ben ça change la sonorité du tout. Et donc c'est super. Enfin ça te. Et aujourd'hui c'est important parce que on est en train de tendre dangereusement vers des envies d'absolu qui sont impossibles, des envies d'identité absolue, c'est enfin de chauvinisme identitaire, d'extrémisme identitaire, et des choses qui sont connes, qui sont bêtes en fait, de se dire que enfin ma religion est la seule qui est vraie, ma langue est la seule qui est vraie, enfin et c'est con. Enfin, parce que ça va à contre-courant d'un monde qui est de plus en plus pluriel, où les distances sont de plus en plus courtes. Donc ça veut dire qu'il faut être vraiment très bête pour ne pas voir ça. Ou cette bêtise est peut-être aussi une énorme peur de l'autre, quoi. Et la peur de l'autre, elle vient aussi beaucoup d'une peur de soi-même. Évidemment, ça fait une peur bleue de venir au Japon, par exemple, de dire que tu ne parles pas japonais. Mais oui, parfois tu as peur, parfois tu es là. Là, L-A-S, quoi. Ça te lasse de devoir te battre. Du coup, tu commences à apprendre. Bon, toi, tu parles japonais couramment, j'imagine. Enfin, tu vas à l'école. Enfin, t'es allé à l'école japonaise, non?
Oui, un peu.
Ouais, mais voilà, tu communiques en japonais.
Enfin, moi, j'ai un peu du mal avec les langues. Mais...
Ouais.
Donc, je parle pas hyper bien japonais.
Mais ouais, mais sans doute beaucoup mieux que moi. Mais tu vois, par exemple, ok, là, c'est un peu une victoire et une défaite. Une victoire et une défaite. Une victoire. Tout le temps. Je prends un jour un taxi. J'adore les chauffeurs de taxi au Japon parce que du coup, c'est quelques-uns des meilleurs profs de japonais parce que du coup, ils te font parler. Et ils te font parler de choses simples. Genre, ah, il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas? Et du coup, tu réponds. Et là, je me sens très fier de moi. Je me dis, ah putain, j'ai discuté avec le chauffeur de taxi en japonais, c'est génial. Je sais dire des choses. Et c'est vrai. Et du coup, tu descends du taxi et tu arrives à ton prochain rendez-vous et tout est écrit en japonais. Et du coup, tu vois que, enfin, dans la phrase, il y a genre. Ah, du coup, tu dis, ah, ok, j'ai appris plein de candis là, je connais, allez quoi, 200 candis, super. Et là, du coup, tu lis une phrase, il y a genre une dizaine de candis, dont un que tu connais. Et là, tu dis, ok. Et du coup, la personne te pose une question, tu comprends rien. Et du coup, tu dis, Sumimasen, Eigo ga hanasemasu ka? Et là, du coup, c'est un peu, tu dis, c'est une déclaration d'échec, en fait. Mais en fait, mais c'est comme ça. Et ça va être comme ça pendant longtemps encore. Et... Mais c'est bien, en fait. À chaque fois que je... Ok, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à apprendre le français, mais je ne crois pas que l'âge, que plus tu deviens vieux, moins tu deviens... T'es capable. Je ne pense pas que c'est vrai. Je pense que c'est une question aussi de comment tu te conditionnes, comment tu te positionnes par rapport à... C'est juste parce que quand on devient vieux, on a de plus en plus peur, quoi. Plus on vieillit, plus on a peur. Et donc, du coup, tu as peur de te taper la honte, tu as peur de... Tu te dis, ça va prendre trop longtemps... J'ai pas le temps pour ça, j'ai pas l'espace mental, j'ai pas envie. Alors que c'est une aventure, quoi. Et du coup, pourquoi je disais ça Oui. Et du coup, je pense parfois à mon apprentissage du français. Je me suis dit, si j'ai appris le français, je peux apprendre le japonais. Et parfois, tu te dis, mais ça, c'est trop compliqué, ça. Mais après, tu te dis, mais en fait, dans ma langue maternelle, dans le portugais ou dans le français, il y a des choses aussi compliquées à d'autres niveaux, mais qui sont très compliquées. Mais vous avez quand même plusieurs mots pour dire la même chose en japonais, non? Mais on a ça aussi pour d'autres mots dans nos langues à nous. Je sais pas si un japonais peut comprendre. Enfin, je suis sûr que si du coup ils ne connaissent pas la différence, ils vont dire mais pourquoi vous dites thé et tisane? Pourquoi vous dites glace et sorbet? Alors qu'il y a une raison évidente en français pour dire glace et sorbet, thé ou tisane. Il faut juste que tu l'apprennes à la personne. Et c'est comme en japonais, pourquoi est-ce qu'il y a mise, pourquoi il y a yu, c'est l'eau chaude. Et l'autre, d'accord. Et donc, ça fait sens. Mais c'est du travail, quoi. C'est un processus. Mais ce processus, c'est une aventure. Et c'est chouette. Je reviens à Proust, parce que ça m'a appris beaucoup par rapport à ça aussi. C'est une aventure, la recherche du temps perdu. C'est un truc qui fait 3000 pages. Mais c'est pas grave, t'as pas besoin de lire ça d'une traite. D'ailleurs, c'est dommage de lire ça d'une traite, parce que ça... Déjà, c'est pas possible. Et c'est une aventure que tu... Il n'y a aucun mal à dire... Est-ce que tu as déjà lu Proust? Non, jamais. C'est pas grave. Tu le liras un jour ou tu ne le liras pas. C'est pas grave. Mais ce que je trouve un peu con, c'est... Je me souviens, un jour, j'étais dans une librairie et j'ai vu un bouquin qui s'appelait un truc... Je sais pas, c'était un titre à rallonge qui était un peu à peu près... Les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature universelle en deux pages pour ne plus faire pâle figure en soirée. Ça s'appelait comme ça, le bouquin. J'ai dit, mais... Oh. Mais qu'est-ce que je plains les gens qui vont lire ce truc? Mais c'est pas... Donc du coup, là, il y avait, par exemple, la recherche du temps perdu, il y avait 2 pages, et ça racontait l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Mais on s'en fout. C'est une expérience, c'est une forme, c'est une traversée. Dis que tu ne l'as pas lu. Point. Parce que quelqu'un qui l'a lu, s'il va discuter avec toi, et que tu te dises ce que tu sais par rapport à 2 pages, mais vite fait, tu seras grillé et ce sera ridicule. Donc, c'est pas grave, mais c'est une expérience à faire. C'est pas une connaissance à avoir, c'est pas un truc pour se la péter, c'est une expérience, c'est un chemin à traverser. Et ça, c'est chouette. Parfois, les chemins sont ardus. Là, maintenant, j'ai été mordu par le ver du japonais, donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que là, maintenant, je ne peux plus me faire tourner cette page. Il va falloir que je continue. Et là, du coup, Il y a un truc qui peut te rendre un peu serein à nouveau, c'est de se dire, bon, ok, je sais que ça va prendre du temps. C'est pas grave. Je ferai plein d'autres choses à côté, mais entre-temps, je veux continuer mon chemin avec le japonais parce que ça m'a appris plein de choses. Et c'est une autre façon de voir le monde. La langue, sa façon d'être construite, elle est complètement différente des langues occidentales en général, tu vois. Et donc, ça t'apprend encore une autre chose, ça te fait travailler une autre partie de ton cerveau. C'est cool. Voilà, donc c'est d'autres mythologies qui s'activent. Un jour, je discutais avec un ami sur l'allemand. Je sais pas si tu connais un peu l'allemand.
Non.
En allemand, le soleil est féminin et la lune est masculine. C'est-à-dire, c'est la soleil et le lune. Ça change tout, n'est-ce pas? Enfin, ça change tout dans ta tête. Parce que quand on pense le soleil, la lune, on a une figure masculine pour le soleil et une figure féminine pour la lune, tu vois. Même dans la mythologie, t'as Apollon, Artemis, Hélios, Séléné, tout ça. Évidemment que la lune est féminine. Mais non, en allemand, non. C'est une belle jeune femme avec les cheveux blonds, le soleil, et c'est un vieillard avec la barbe argentée, la lune, tu vois. Putain, mais ça change tout. Et c'est incroyable, du coup, ça t'enrichit encore dans tes visions du monde. Et ça rend plus évidente aussi et plus avenante l'interaction avec l'autre. Tu as un peu moins peur. Enfin, tu as toujours peur, mais t'arrives un petit peu plus à te mettre à la place de l'autre.
Combien de langues parles-tu et cela influence-t-il tes projets ?
Oui, ça influence mes projets, bien sûr. Oui. Ouais. Oui. Alors, couramment, 5. Portugais, qui est ma langue maternelle, bien sûr. Le français, l'anglais, l'espagnol. Et je le mets un peu en dernier parce qu'il y a aussi une histoire avec ça, l'italien. Qui est aussi une langue très importante dans ma vie, que j'ai commencé à apprendre avec les livrets d'opéra, grâce à l'opéra. Donc c'est-à-dire que mon italien des premières années était un truc assez vieux. Tu vois, un truc opératique du 19e. Tu vois, je disais des mots qui ne s'utilisent pas aujourd'hui. Les Italiens me disaient, mais t'as cherché où ce mot que personne ne prononce? Je dis, bah, à l'opéra. mais parce que... Et je l'ai appris d'une façon tout à fait différente du français. Je l'ai appris quasiment tout seul. J'ai pris des cours d'italien pendant un an. Mais sinon, le gros du... Enfin, après, genre 2 ans après que j'avais déjà commencé avec les livrets d'opéra. Et la vitesse avec laquelle je l'ai appris... Bien sûr, je parlais déjà portugais, je parlais déjà anglais, et j'avais déjà de bonnes bases de français, donc ça aide. Surtout que la structure de l'italien est très proche de celle du français. Et la prononciation n'est pas absurdement différente de celle du portugais, par exemple. Des voyelles ouvertes, consonnes, tout ça. Mais en fait, j'ai des origines italiennes, du côté de mon grand-père maternel. Et c'est vrai que j'ai un truc avec l'italien, c'est une langue qui m'émeut, en fait, qui me touche, mais qui me touche vraiment. Tu as vu mon film, enfin, il y avait plein de trucs italiens, voilà. Tu sais, parfois, tu entends un morceau ou une mélodie et ça te touche, ça t'émeut, tu vois. Parfois, j'entends des mots en italien et ça m'émeut. Et du coup, je me dis, ah oui, c'est... Peut-être qu'il y a un truc de mes ancêtres, je sais pas. Mais après, je suis le seul qui parle... toutes ces langues dans ma famille, quoi. Je suis le seul qui parle français, je suis le seul qui parle italien, mais j'ai un truc fort avec l'Italie et avec la langue italienne. C'était tout naturel que justement je m'intéresse à l'opéra. Bien sûr, il y a l'opéra français, il y a l'opéra italien, allemand, il y a l'opéra russe, mais enfin, c'est surtout l'opéra italien qui... Enfin, c'est né en Italie en plus, tu vois, l'opéra. Donc l'italien, et après j'ai des notions de grec moderne que j'ai commencé à apprendre depuis 2 ans parce que je commence à faire des projets en Grèce, et j'adore aussi cette langue. J'ai des sensations proches de celles de l'italien, peut-être que je suis un mec de la Méditerranée, et maintenant je lutte pour apprendre le japonais. Voilà, c'est... Après je m'intéresse, je sais dire quelques mots en roumain, parce que c'est une langue latine, et comme j'ai fait lettres à la fac... Parfois on nous parlait du roumain, donc j'ai pris 3 mois de cours de roumain avec une prof roumaine très fantasque, qui était voilà, un personnage, je me souviens, donc je connais quelques mots. C'était bien pour étudier la philologie, tout ça. J'ai fait 3 mois de russe, donc si tu me donnes un texte en russe, je peux te le lire, je peux te le translitérer. Évidemment, je ne saurais pas ce qui est dit, parce que je connais juste quelques mots, mais je sais translitérer, je sais lire le cyrillique. Et c'est tout. Enfin, et j'ai fait du latin et du grec ancien à la fac, quoi, mais bon.
Comment considères-tu tes œuvres passées ? Les détruis-tu ou les inspires-tu ?
Comment on détruit une pièce de théâtre ? Je sais pas. Mais. Non. Non, je ne. En tout cas, je ne renie rien. Et je ne cesse de revenir à des. De faire des allers-retours à des choses que j'ai pu faire autrefois. Et non, je ne les détruis pas, en tout cas. J'ai du mal à me séparer de mes vieilles amours. Que ça continue. Ça résonne, ouais.
Quelle importance accordes-tu au public ? Quelle relation as-tu par rapport à lui ?
Une importance capitale. Bien sûr. Alors, il faut faire gaffe juste à certaines choses, certains pièges dans lesquels je crois il ne faut pas tomber. L'un, c'est de dire on fait du théâtre pour le public. Tout ce qu'on fait, c'est grâce au public et pour le public. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas complètement vrai. L'autre écueil, c'est de dire que c'est le contraire, c'est de dire je m'en fous du public en fait. J'exprime mon art et puis le public non plus. Ah, il y a encore un troisième, c'est de penser que voilà, ah, il faut activer le public, sortir les spectateurs de leur passivité de spectateur et de les activer. Nanana. Un spectateur n'est jamais passif déjà. Il y a des connexions mentales dont tu n'as pas idée, toi, au plateau. Tu peux vouloir dire, tu peux dire ce que tu veux, et ça va peut-être être très impactant pour le spectateur, mais tu ne peux pas conditionner la lecture personnelle, forcément personnelle, que chacun de ces spectateurs va faire de ton œuvre. Et c'est intéressant de jouer avec ça, avec cette donnée inconnue, avec le fait que la réception de ton œuvre sera confrontée à un autre vécu, à une autre perception du monde. Et c'est chouette. Donc moi, j'aime jouer avec les rapports acteurs-spectateurs, scène-salle, proposer de nouvelles économies spatiales pour cette relation. Mais c'est pas tant pour mélanger les rôles. Je pense que ces deux rôles sont essentiels, le rôle du spectateur et le rôle du performeur. Et que c'est dommage de vouloir se substituer à l'autre ou que tout le monde fasse la même chose, parce que déjà c'est impossible, et surtout il n'y a pas de jeu. Un jeu entre la scène et la salle. Mais par contre, on peut renouveler à l'infini cette relation. Et ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant, non pas que uniquement pour les spectateurs, genre, on va les sortir de leur passivité, on va, mais pour les acteurs aussi. Pour les sortir de leur zone de confort aussi. Parce que oui, bien sûr, ah oui, l'acteur, c'est tellement risqué, c'est tellement une exposition de soi. Oui, c'est vrai, mais ça peut aussi avoir des conditions. Ça peut ça peut tomber dans une espèce d'automatisme, ça peut inculquer de mauvaises habitudes, tu vois. Ah, ben voilà, parfois un peu protégé par la boîte noire, par les projos qui t'aveuglent et qui t'empêchent de voir la salle. Donc c'est intéressant aussi de retrouver une place de vulnérabilité et de surprise et de fraîcheur de l'instant proche de celle du spectateur. Nous, quand on était dans le noir, par exemple, certes, on savait ce qu'on allait faire, mais on est dans le noir. Du coup, tout peut arriver, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on a une... Et quand j'ai joué théâtre, donc on était nus, en plus. Vous n'étiez pas nus, mais dans le théâtre, on était tous nus, littéralement. Donc, ça veut dire que, oui, on savait ce qui allait se passer, mais si jamais il y avait une merde, bah, les premiers à en souffrir, ce serait nous, parce qu'on était à poil, quoi. Alors que les spectateurs, ils étaient habillés, assis. Donc, pour eux, c'était une plongée dans l'inconnu, parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Putain, ils sont dans le... Tous les dangers sont possibles, là. Nous, on sait ce qui va se passer, dramaturgiquement, mais on est dans un état de vulnérabilité, comme eux. Et des réactions émotionnelles pendant le spectacle, par exemple, les spectateurs en avaient, mais nous aussi. Quand on débriefait après, il y a plein d'acteurs qui me racontent, qui me disaient qu'ils avaient eu... qu'ils avaient pleuré, qu'ils avaient... Je suis pas en train de dire qu'il faut faire leur thérapie. Enfin, tout le monde jouait, tout le monde savait ce qu'ils avaient à faire et ils jouaient, c'était très bien. Mais ils étaient aussi traversés par des émotions insoupçonnées. Il fallait juste les mettre au service du drame. C'est comme quand, je crois que c'est Idoya, je sais pas si elle a posé cette question devant tout le monde, si elle a posé à moi seulement, elle a dit, enfin je sais pas, cette chanson quand je la chante, ça m'émeut, donc c'est jamais... ça me donne envie de pleurer, je dis, bah, pleure, c'est pas grave. Mais cette émotion, bah, ne la laisse pas te couper de l'ensemble, tu la mets en dialogue avec l'ensemble. Donc je pense que ce rapport acteur-spectateur, il est intéressant de le questionner et de en permanence et de le renouveler pour justement rafraîchir cette écoute et cette perméabilité au présent. Pour pas qu'on tombe dans nos mauvaises habitudes de comédien. Voilà.
Comment choisis-tu les membres de ton groupe? Les choisis-tu ou te choisissent-ils?
Les deux. Ouais, et pour chacun, il y a une histoire. Bah, c'est comme vous, là, tu vois. Il y a certains que j'ai choisis, mais ils m'ont choisi tout autant. C'est moi qui allais chercher Koji Saint et... Ryo Kosan et Florian et Ayumi-san, mais c'est eux qui ont décidé de me suivre et de venir à Kyoto aussi, tu vois. Donc, c'est-à-dire que c'était un peu un double entretien d'embauche, quoi. Et après, il y a eu Moi, j'aime. Je fais rarement des. Je crois que je fais une fois dans toute ma carrière des auditions pour un spectacle. J'ai auditionné des gens pour un spectacle. Parce que j'aime aussi être confronté à des gens que je connais pas. Et voir ce que je vais bien pouvoir faire, quoi. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Ça, c'est aussi une façon de ne pas trop t'accommoder, quoi. Tomber dans un truc de confort et de. T'es confortable dans tes outils. C'est un. Parce que oui, ça fait peur. Il y a beaucoup de gens qui ne savent travailler qu'en auditionnant et qui mettent des profils très spécifiques pour avoir le moins de travail humain et empathique à faire, tu vois. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Et du coup, je vois débarquer vous tous, là, 20 personnes que j'ai jamais vues. On a 5 jours. Et il va falloir qu'on fasse un truc ensemble, quoi. Et c'est possible, je pense. Donc, c'est un choix multiple et dans les deux sens. Réciproque, donc.
Tu as pour ton projet Voice of Kyoto réuni des gens de différents horizons. Pourquoi encourager ce déracinement, cette polyphonie? Souhaites-tu corriger l'effet Babel? Faire de cette diversité une chance de rendre Babel heureuse?
De rendre Babel heureuse, parce que là, du coup, tu pars du mythe biblique comme quoi Babel est malheureuse, c'est ça?
Oui, parce que tout le monde ne parle plus la même langue et du coup est dispersé.
Oui. Oui,
et les gens n'arrivent plus à communiquer.
Exactement. Bah, oui, alors oui, bah, c'est marrant. Dans ce sens-là, oui, bien sûr. Ouais. Oui, parce que on peut communiquer au-delà des langues. Et peut-être même, j'irai même plus loin, on peut communiquer au-delà des différentes langues et même grâce au fait de parler différentes langues. Parce que du coup, ça nous fait trouver des connexions qui sont extra-linguistiques, mais essentiellement humaine. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Après, j'aime la diversité. J'aime, si je pouvais, je parle, si j'avais le temps et l'espace mental et la possibilité, je parlerais plein de langues. Je sais pas, j'ai très envie un jour, mais ce sera pour une prochaine vie d'apprendre, je sais pas, le mandarin, l'arabe, tu vois, le finnois, mais bon, le russe. Mais en tout cas, je trouve que c'est une façon de se montrer, de se convaincre et d'expérimenter le fait que la communication, que l'empathie, que l'harmonie est au-delà des différences culturelles. Et elle est peut-être même possible grâce aux différences culturelles et non pas malgré les différences culturelles. Et c'est ça qu'il faut que j'ai l'impression une grande partie des dirigeants actuels, ce serait sympa qu'ils puissent comprendre ça parce qu'en fait, il n'y a rien à craindre en fait. Par rapport à ça. Et c'est d'une énorme bêtise, parce que c'est d'une énorme pauvreté, en fait, l'extrémisme. C'est être fier d'être con, être fier d'être ignorant, être fier d'être pauvre, être fier d'être pauvre d'esprit. Donc c'est triste, je trouve.
Travailles-tu sur la dissonance? Recherches-tu une dissonance positive, réconciliante? Est-ce là un objet du théâtre, le fait de mettre en scène la dissonance?
Oui. Toutes ces hypothèses-là sont justes. Oui, oui, bien sûr. Enfin, et la dissonance, ce n'est pas la discordance. C'est la dissonance, et c'est très bien. Enfin, parfois c'est la discordance, mais c'est la discordance dans le sens du jeu, dans le sens où il y a une équipe qui joue contre l'autre équipe. Ça ne veut pas dire qu'ils se détestent, ça veut dire qu'ils jouent l'un contre l'autre. Et il faut qu'ils jouent l'un contre l'autre, sinon il n'y a pas de match. Sinon, il y a genre 20, si on parle de foot, sinon il y a 22 joueurs du même côté du terrain. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien.
Pour toi, l'artiste est-il un homme qui amène les autres vers lui-même?
Oui, mais j'espère aussi que c'est quelqu'un qui amène soi-même vers les autres. Et parfois, volontairement ou involontairement, mais en tout cas par le biais de sa recherche et de sa et de l'universalité à laquelle elle tend, qui amène aussi les autres envers. L'un vers l'autre, sans même que lui-même ou elle-même ait à faire quoi que ce soit. Et l'œuvre est pont, est vase communicant.
Tu as intitulé ta pièce Voice of Kyoto.
Voices, au pluriel.
Ah, c'est au pluriel.
Oui.
Est-ce que c'était marqué sans S?
N'importe quoi. Ok, j'aime plaindre.
Parce que du coup, il y avait une question aussi sur ça. Pourquoi au singulier plutôt qu'au pluriel?
Eh ben non, c'est au pluriel. Donc c'est une erreur.
C'est une erreur. Mais du coup, avec des gens qui viennent de toutes parts, donc sur Kyoto, une ville s'appartient-elle? On est là à Kyoto parce qu'on y habite ou parce qu'on aime Kyoto?
Ah, ça, il faudrait poser la question à chacune de ces personnes. Mais en tout cas, les voix de Kyoto, ce sont les voix qu'on entend à Kyoto, quoi. Et heureusement qu'on n'entend pas que le japonais, justement. Après, tu vas dire, oui, mais les Ainu viennent de Hokkaido. C'est vrai. Mais je sais qu'il y a sans doute des gens qui... Enfin, on est allé dans un bar tenu par des gens d'Okinawa pour écouter le concert de Ayumi et Florian le samedi soir, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là aussi. Et le fait que ces gens-là soient à Kyoto à ce moment-là, en train de créer, de tisser des réseaux de relations avec des Kyotoïtes, ça fait que c'est aussi les voies de Kyoto, quoi. Ce projet, il s'est fait à Kyoto, donc c'est le projet de cette ville. Tout a commencé dans cette ville, donc... ouais, c'était ma maison, ici.
Pourquoi le noir? Pourquoi le refus momentané du visible? Pourquoi l'avoir supprimé?
On a très souvent tendance à mettre les autres quatre, si on part du principe qu'il n'y a que cinq sens, mais les autres quatre sens en veille ou un peu en pilote automatique au profit du visuel. Avant de goûter un chocolat, j'ai vu que c'est un chocolat, donc je sais quel goût ça aura. Donc du coup, mon cerveau a déjà commencé à travailler grâce à mes yeux et mon palais donc va être un peu plus paresseux. Il y a pas mal de textes philosophiques écrits sur ça, sur ce qu'on appelle l'ocularocentrisme, par exemple. Et c'est... Il y a quelque chose de l'ordre de la confirmation du sens de quelque chose. Jean-Luc Nancy appelle ça le sens sensé, c'est-à-dire le sens qui confirme la signification de la chose, qui dans les cultures en général, surtout dans les cultures occidentales, ne peut être confirmé que par la vue. Alors que il y a aussi tout un tas d'autres niveaux de sens qu'il appelle les sens sensibles. C'est-à-dire que il y a tout autant de sens sensibles dans le sens sensé et tout autant de sens sensés dans les sens sensibles. C'est-à-dire que donner à la vue le seul rôle de garant du sens sensé, c'est négliger toutes les possibilités de sens sensibles que peut donner la vue, sans nécessairement chercher une signification. Et je pense que les Japonais, par exemple, sont très forts pour ça. Reléguer les autres sens à la seule perception du sens sensible, donc de tout ce qui est de l'ordre de la sensation, de la synesthésie, c'est ne pas voir aussi le pouvoir sémantique, le pouvoir d'accorder de la signification aux choses. Et donc, du coup, c'est intéressant, je pense, de rééquilibrer la balance, de proposer une autre économie, une économie synesthésique, sensible, et donc de faire travailler les oreilles, parce que du coup, en plus, le noir complet, ça bouscule nos rapports à l'espace et au temps. On ne sait pas si on est dans un espace tout petit ou infini. Et du coup, il y a un truc, une sensation de qui, peut-être dans le qui-vive, et dans un truc d'être à l'affût, d'être... qui décuple les émotions, les états émotionnels. Et je trouve ça intéressant. Et pour nous, performeurs, ça nous fait travailler encore davantage notre écoute. Et il y a un passage plus dégagé entre le conscient et l'inconscient, je trouve.
Travailles-tu pareillement avec les mêmes méthodes quand c'est du théâtre ou du cinéma?
Non. J'ai répondu trop vite. Écoute, alors, justement, je ne sais pas si je peux encore parler de méthode pour le cinéma, puisque je n'ai fait qu'un seul film, celui que tu as vu. Et ça a été... Les tournages ont été particulièrement stressants et traumatisants. Ce n'est qu'après que, du coup, je me suis réconcilié avec le cinéma. Réconcilié, tu vois, je venais de commencer... Je me suis brouillé avec le cinéma direct et je me suis réconcilié quand j'ai commencé à me dire justement, en fait, il n'y a pas de méthode. En fait, je ne dois rien. Je peux avoir plein de modèles. Je peux avoir un dialogue formidable et je veux avoir un dialogue formidable avec eux, mais je ne leur dois rien et ils ne me doivent rien non plus. Et donc, le bon cinéma, le meilleur cinéma que je puisse faire, c'est le mien. Et il faut que je le trouve. Et c'est une question de processus. Mais ce qui m'a réconcilié surtout avec le cinéma, c'est quand j'ai compris toutes les possibilités, enfin tout ce qui, dans le cinéma, était théâtral, était lié au théâtre, et lié au hasard, et à l'écoute, et à l'improvisation, parce que c'est possible ça aussi dans le cinéma, tu vois. Alors que du coup, on te prend la tête Ah, il te faut un scénario, il faut un découpage. Bien sûr, il faut plein de choses. Il faut que les gens puissent communiquer. Le cinéma, c'est une autre temporalité. Enfin, il faut que les gens comprennent aussi ce que tu veux leur faire faire ou leur dire. Mais ça peut passer par différentes choses. Tu vois, je parle à Godard, il changeait tout le temps son scénario. Enfin, il avait pas de scénario. Donc, enfin, et pourtant, ça existait. Et je pense que cette existence du cinéma, l'essence de cette existence, elle est théâtrale. Ça veut dire qu'elle se fait dans l'instant et dans l'instinct, collectivement. Tu ne dois pas être radin d'informations, de feedback. Il faut que tu saches te traduire toi-même, justement, et te faire comprendre. Mais il ne faut pas non plus que ça se fasse au détriment d'un flux sensible spontané. Et c'est bien quand c'est comme ça. Et après, quand j'ai fait le montage, j'étais très heureux de faire le montage. J'avais très peur, j'ai mis 2 mois à regarder les images parce que je ne veux pas voir ce que ça va filmer. Je me suis dit, si j'ai honte de ce truc, ça va être horrible. Et en fait, pendant le montage, j'étais juste la monteuse. On était juste la monteuse et moi dans le studio pendant un peu moins de 2 semaines. Et c'était génial. Je me suis dit que j'allais détester ça, que ça allait être un calvaire, que j'allais voir ces images et que j'aurais honte de la monteuse à côté de moi. Mais en fait, ça a été génial. En fait. Et là, je me suis dit, en fait, c'est chouette. En fait, je pense que je pourrais faire un autre film après avoir fait ça. Et même dans le montage, qui est un truc technique et chiant, c'était théâtral. C'était chouette. On avait des idées, elle et moi, entre ah, et si on mettait ça là, c'était un peu une cuisine. C'était chouette. Donc oui, je pense qu'il y a du... je pense que là, maintenant, si je refais un film, pour bien me réconcilier avec le cinéma, ben, du coup, je suivrai une méthode, entre guillemets, peut-être plus proche de celle... Même si j'aime pas parler de méthode, mais en tout cas, les outils, j'aurais moins honte d'utiliser les outils théâtrales pour la création cinématographique.
Quelle est la différence, selon toi, entre la langue et la musique?
La musique. La musique, genre, dans le sens commun du terme, quoi, la musique. La différence entre la langue et la musique. On peut parler de musique de la langue, par exemple. Je crois qu'il y a une musique dans les langues et que la musique est un langage, donc une langue. Donc, on peut communiquer avec la musique et on peut chanter avec les langues. Donc, c'est peut-être une différence de support ou de contexte. Il y a en tout cas, les deux partagent une essence peut-être commune, puisqu'elles ont des points communs l'une avec l'autre. Même si dans la vie de tous les jours, dans le sens commun qu'on met sur ces choses-là, on s'en aperçoit moins. Mais oui. Je ne sais pas si ça répond à la question.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci à toi. Merci beaucoup.